Voilà, donc j'achève mes remerciements qui s'adressent à l'Institut et à son directeur, Denis Barranger. Il y a maintenant un titre à cette communication qui est l'illusoire concordance des temps. C'est celui qui figurera si jamais il y a une publication. Et le fait que pendant 30 ans, je n'ai pas lu Kantorowicz, ce sera peut-être en sous-titre. En tout cas, depuis 30 ans, dans un petit coin de mon bureau, est accroché un tout petit cadre qui n'a aucun intérêt et qui résulte d'une photocopie que j'avais faite pendant ma thèse, photocopie du visage donc de Kantorowicz à partir de la version qui était à Cujas de Mourir pour la patrie et autres textes. Et voilà, et à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai pas mal déménagé depuis 30 ans, à chaque fois j'avais ce cadre et je ne l'ai pas jeté, ou j'ai pas mis autre chose sous le verre. Et je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi. C'est la photo de Kantorowicz, il est avec. C'est la même que celle qui est représentée sur la biographie d'Alain Bourreau de 2018. Histoire d'un historien. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que dans l'ancienne version de la photo qui était parcoupée, il était avec sa clope. Et maintenant, il n'y a plus de clope. Mais ça va être un signe des temps. Mais je pense qu'au fond, je ne voulais pas rompre avec cette période de l'écriture de ma thèse, qui était une période, comme tous ceux qui ont écrit une thèse, qui est une période d'une incroyable densité. Et Kantorowicz était là un peu comme figé. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, on était donc au début des années 90, le livre était assez à la mode, la traduction française venait de paraître, et en gros, c'était assez chic d'avoir lu Kantorowicz, ou plutôt ne pas l'avoir lu était pratiquement une faute professionnelle. Un peu plouc, tu as raison. Mais pendant 30 ans, j'ai cité Kantorowicz dans différents articles, la plupart du temps de tête, ou en tout cas en allant voir juste le petit passage que je voulais citer, mais sans relire, sans vraiment m'approprier l'ensemble des textes, parce que tout simplement, ça prend un petit peu de temps. Et donc, quand Olivier m'a proposé ce projet, voilà, j'ai vraiment voulu me dire, je vais relire en entier, et est-ce que je vais avoir une lecture nouvelle, est-ce que ça va changer quelque chose? Au fond, est-ce que ces textes allaient apparaître comme démodés, comme dépassés, comme inutiles, inopérants? Est-ce que la force des analogies, des rapprochements entre la théologie, la philosophie, l'histoire de l'art, évidemment le droit, est-ce que ça pouvait encore enrichir le ciel de nos idées? Et voilà, donc ça fait un mois que j'ai passé, moi qui viens de passer, était entièrement consacré à cette lecture-là, enfin dans mes lectures savantes. Et la réponse est évidemment oui. Comme tout grand livre, chaque nouvelle lecture apporte quelque chose de nouveau. Et c'est étonnant de voir que il y a toujours de multiples couches dans les grands livres. Et au fond, la continuation du texte écrit par l'auteur est faite par le lecteur. Alors, avant d'évoquer ces nouvelles lectures, je voudrais vous dire quelques mots de ce que je recherchais. Parce qu'on cherche toujours quelque chose quand on fait sa thèse, quand on lit un livre. On ne le lit pas du tout pour le plaisir, on le lit de manière extrêmement utilitariste. Comme quelques-uns le savent ici, j'avais travaillé sur l'état d'exception. Ce que je recherchais dans Kantorowicz, c'est l'idée d'un impératif inconditionnel, qui est l'impératif de sauvegarde de la communauté politique, qu'elle prenne cette communauté la forme de l'État ou plus largement de la société, ce qui permet d'y inclure, par exemple, depuis quelque temps, des considérations sécuritaire qui n'ébranle pas l'État à travers le terrorisme par exemple, mais qui justifie des mesures d'exception, ou des considérations sanitaires qui, elles aussi, n'ébranlent pas beaucoup l'État. Et après une période d'éclipse à l'époque féodale, Kantorowicz montrait comment pouvait se reconstruire cette exigence impérieuse de la préservation de la couronne. Exigence qui, justement, permettait de suspendre, d'éclipser temporairement des règles juridiques venant limiter le pouvoir, que ces règles relèvent du droit divin et, enfin, des droits divins et naturels venant peser sur la conscience du monarque chrétien, qui vont l'orienter vers la logique de la raison d'État. Ou bien que ces règles soient des règles que les historiens et les juristes, enfin les historiens du droit anglo-saxon n'hésitent pas à qualifier de constitutionnelles, c'est-à-dire celles qui ont trait au partage ou à la limitation du pouvoir, par exemple les interdictions de levée fiscale sans consentement des intéressés ou sans l'autorisation pontificale, ou l'interdiction de légiférer pour l'ensemble du royaume sans l'assentiment des barons. Et donc ce travail de Kantorowicz était particulièrement instructif pour repérer une sorte de coalition involontaire de disciplines savantes vers un même objet. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de l'art, la philosophie, la théologie, le droit romain, le droit canonique, tout cela convergeant vers l'idée de la continuité de la couronne. Kantorowicz montrait que l'État, ou en tout cas que disons la communauté politique, ne comportait pas, et je renvoie d'ailleurs à la discussion qu'il y a eu entre Thibault et Laurent Maëly ce matin, l'État ne comportait pas seulement une dimension spatiale, ce que nous connaissons, juristes qui avons fait un peu de droit international, on apprend qu'il y a un territoire, un peuple et des institutions, mais que l'État doit se penser aussi dans sa dimension temporelle. Une forme de sécurité de l'État dans l'idée qu'il peut demeurer dans son être. Et évidemment, penser l'état d'exception comme une sorte d'angoisse de l'État de ne pas pouvoir demeurer dans son être. Et donc le moment 13e-14e siècle, pendant lequel l'ajout de cette dimension temporelle permettait vraiment de conceptualiser le corps politique, le menant sur la route de l'État moderne. Et ce moment allait prendre fin, au fond, avec les temps contractualistes, les temps du XVIIe siècle, au cours desquels, simultanément, on inventait l'État comme le résultat de la volonté humaine, et donc on inventait aussi, ou on réinventait, comme à l'époque féodale, le non-État, et donc la crainte de la discontinuité. Et donc il fallait, comme au XIIIe siècle, repenser des pouvoirs extraordinaires, l'État, au fond, étant quelque chose d'incroyablement mortel, encore une fois parce que le non-État était pensé. Et donc au XVIIe siècle, deux solutions sont imaginées. Eh bien, des pouvoirs extraordinaires de manière permanente, hein, c'est la version hobbesienne d'un Léviathan tout-puissant, ou des pouvoirs extraordinaires, mais de manière occasionnelle. C'est la version lockéenne, avec une astucieuse coexistence, une fine coexistence entre prérogatives royales exceptionnelles d'un côté et résistance à l'oppression non moins exceptionnelle de l'autre. Donc on avait cette fenêtre entre le XIVe et le XVIIe siècle, une sorte de séquence dans la pensée politique et juridique qui assurait à l'État une continuité temporelle venant consolider son assise territoriale, démographique et institutionnelle. Et pendant cette période de 3 siècles, au fond, ce qui pouvait être soit suspendu pendant un temps donné, soit relégué au second plan, étaient les règles limitatives du pouvoir, que l'on songe donc aux droits divins et naturels, ou aux règles institutionnelles qui, avant le XIVe siècle, empêchaient le roi d'agir en monarque absolu, ou bien que l'on songe aux droits naturels modernes, liberté, propriété, droit à la vie, ou encore à des formes plus ou moins abouties de séparation des pouvoirs. Et donc, quand cette suspension était temporaire, eh bien, il fallait invoquer l'urgente nécessité. Quand, au contraire, on assumait l'absolutisme, eh bien, la nécessité était conçue comme permanente, première, au fondement même du pouvoir politique. C'est cette idée de nécessité au fondement du pouvoir politique qu'on trouve, par exemple, dans les développements de Bodin critiquant la dictature. Des règles limitatives du pouvoir qui, quand elles n'étaient pas suspendues, demeuraient considérées comme atemporelles, anhistoriques, éternelles. Les droits divins et naturels sont anhistoriques par définition, ou les droits naturels des modernes sont anhistoriques par définition. Donc elles étaient à la fois atemporelles et suspendues parfois, quand l'État aspirait à l'atemporalité. Et donc, on avait deux atemporalités en conflit, et deux atemporalités dont on comprenait que la condition de possibilité des premières dépendait de la temporalité des secondes. L'État, comme condition de possibilité terrestre de la réalisation des droits divins et naturels pour le Moyen-Âge, l'État comme condition de possibilité de la réalisation des droits naturels individuels après le XVIIe siècle. Avec cette fatalité de la discontinuité de ces droits, prix à payer de la continuité de l'État. De même que parfois, et inversement, c'est intéressant, la discontinuité de l'État se fait au prix de la continuité des droits, comme dans l'hypothèse de la résistance à l'oppression. Donc cette présentation correspond aux conclusions auxquelles j'étais parvenu en 96, en lisant Kantorowicz, notamment, et des conclusions que je crois pouvoir maintenir. Donc je voudrais en venir aux perspectives tracées par cette nouvelle lecture et qui me conduisent à compléter, à affiner la conceptualisation de ces différents temps, deux temps longs, le temps de l'État et le temps des droits, et deux temps courts, le temps de l'État d'exception et le temps de la résistance à l'oppression. Alors, s'agissant des temps longs, Kantorowicz procède, comme le font les auteurs qui l'étudient, par le procédé de l'analogie, c'est-à-dire des rapports de ressemblance, des traits communs de réalité qui demeurent différentes. Et l'analogie, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on aime ce livre, le procédé de l'analogie est très efficace, très agréable, parce qu'il permet d'avancer. Il permet de conclure, et il est plaisant intellectuellement de rapprocher des choses. Vous voyez, c'est très plaisant de se dire que la justice militaire est à la justice, que la musique militaire est à la musique. Au contraire, le fait d'insister sur les distinctions, sur les différences, sur l'hétérogénéité interdit d'éprouver cette satisfaction d'avancer, de conclure. Et donc j'ai lu, il y a 30 ans, de manière attirée ces analogies parce qu'elles me plaisaient, elles me permettaient d'avancer. Maintenant, on peut avoir une autre lecture, me semble-t-il, où on essaie davantage de résister à cette séduction. Et donc j'en viens à mon point d'aujourd'hui. Kantorowicz a montré que les médiévaux avaient conçu l'aevum, donc le temps des corps politiques, comme une manière d'échapper à tempus, donc le temps mortel, le temps terrestre, le temps qui s'achève, et sans prétendre pouvoir se fondre dans la eternitas, c'est-à-dire le temps immortel, le temps sans durée, le temps immobile. Et donc, avez-vous mis un temps avec une durée, avec un temps qui passe, mais qui a vocation à ne jamais finir. Aevum, conçu comme le temps des corps politiques, toujours par analogie aux anges ou aux communautés religieuses, était présenté par Kantorowicz comme plus proche d'aeternitas que de tempus. Je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur les différences importantes entre les deux, qui n'infirme pas la puissance globale de l'analogie mise en lumière par Kantorowicz, mais qui les regarde de manière un peu différente. Et ce nouveau regard sur l'éventuelle proximité entre tempus et aeternitas va se faire à partir d'événements récents, et en particulier sur lesquels j'ai un peu travaillé, qui est la question du terrorisme. Il y a une différence que l'on peut faire entre la mort sacrificielle du lieutenant-colonel Beltram, donc qui s'est substitué à une personne qui avait été prise dans un supermarché et qui est en quelque sorte mort à la place de cette personne, et celle des djihadistes. Les deux sont des sacrifices, mais y a-t-il une véritable analogie dans la survie proposée à Beltram comme héros de la patrie et le paradis assuré à un djihadiste shahid, c'est-à-dire martyr. Voilà. Pour le dire d'un mot, si le corpus mysticum de l'État était aussi puissant que l'éternité de l'au-delà, bref, si l'analogie fonctionnait parfaitement, l'État ne serait plus terrestre et ne serait plus l'État. Et en particulier, s'il était plus agréable d'être mort que d'être vivant, quand on est combattant pour un État, eh bien, les armées ne seraient pas très puissantes. Je fais des cours à Saint-Cyr, et quand on analyse avec des Saint-Cyriens la mort du colonel Beltram, par-delà l'espèce de romantisme très sympathique de cette mort et cette puissance évocatrice, pour eux tous, c'est une énorme faute professionnelle. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui est très formé et qui est en train de commander un peloton de gendarmerie et une personne seule dans un supermarché, il est tout à fait déraisonnable d'un point de vue opérationnel que de sacrifier le chef formé. Donc la proposition que je voudrais suggérer, la première, est que l'aevum est beaucoup plus proche de tempus que d'aeternitas. Le second point que je souhaite soulever porte sur la question suivante. Kantorowicz aide-t-il à comprendre ce que nous vivons depuis 2015, c'est-à-dire des états d'urgence qui traînent en longueur, ou même des états d'urgence qui, tout en disparaissant, demeurent, car ils sont introduits dans le droit commun, comme dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme de 2017. Autrement dit, revitons une séquence décrite par Kantorowicz comme la séquence 14e-17e siècle, au cours de laquelle la necessitas, la nécessité, qui était toujours associée à l'urgence, a fini par être une nécessité normale. Ce qui signifierait en termes de rapport au temps que certains droits d'aujourd'hui, hein, les droits fondamentaux, seraient chassés de leur piédestal, de leur supériorité, en se voyant privés d'aeternitas, de sorte que l'aevum de l'État pourrait en faire bon marché, sans même devoir s'en expliquer fermement. Bref, c'est... droit serait relégué à des institutions juridiques marquées par tempus comme des entités mortelles et pour certaines d'entre elles comme des entités déjà mortes. prenons l'exemple de l'inviolabilité du domicile avec les visites domiciliaires de la loi de 2017. Et l'outil de disqualification de la aeternitas, en tout cas c'est une réflexion que je voudrais vous suggérer, est le contrôle de proportionnalité, le fameux triple test. Si en effet le respect des libertés peut toujours être mis en cause par un motif d'intérêt général ou de bien commun, alors aucun motif transcendantal, ou en tout cas aucun motif attaché à une forme d'aeternitas, peut sérieusement résister à ce qui pourrait mettre en péril le corps politique. Donc le premier point sacrifie ces temporalités de l'État. Je voudrais commencer ce point en évoquant le style littéraire des eulogies, donc le style des oraisons funèbres qui étaient bien connues des anciens. Les héros grecs, le héros grec ayant donné sa vie pour sa cité, survit à sa propre mort, et notamment grâce à l'hommage, l'oraison funèbre qui était rédigée par les plus grandes plumes, les plus grands orateurs du temps, Périclès, Démosthène et autres. Et au temps chrétien, eh bien, cette conception des choses a totalement basculé. Entre le 2e et le 3e siècle, Tertullien, ou au 3e et 4e siècle, Lactance, hein, le fameux Cicéron chrétien, prennent très au sérieux l'injonction « tu ne tueras pas » et envoient des baptisés préférer la mort pour Dieu, c'est-à-dire préférer le martyr, à la mort pour les hommes, en servant dans les armées de l'Empire. Et comme l'a bien montré Kant Horowitz, à la fois dans Mourir dans Propria Priamori et puis dans le chapitre Mourir pour la patrie des deux corps du roi, la mort pour la patrie céleste, la patria aeterna, valait mieux que la mort pour la patrie terrestre, l'Empire. Conflit de durée, conflit d'éternité, si l'on peut dire, le paradis chrétien vaut mieux soudain que le souvenir des soldats tombés pour leur empereur, pour leur roi, pour leur république. Et il me semble que cette analogie passionnante ne va toutefois pas jusqu'au bout, et que dans le monde judéo-chrétien, avec un dieu extérieur au monde, et non un dieu dans la cité, comme dans l'Antiquité, eh bien, le paradis reste plus puissant que la certitude d'appartenir au contingent des héros morts pour leur patrie terrestre. En effet, le paradis est une véritable aeternitas. L'âme du martyr, allégée de son corps physique, cette âme n'est pas sujette à la durée. Elle est dans la même immobilité que la même immuabilité que Dieu lui-même. Et Dieu ne vieillit pas, Dieu ne prend pas un coup de vieux, il est né barbu, il est né vieux, c'est son truc à Dieu. Et c'est pourquoi la remissio peccatorum, proposée aux croisés par Urbain II en 1095 pour la première croisade, ou la promesse faite aux Templiers autour de 1130 par Bernard de Clairvaux, offre des perspectives, si je puis dire, plus attractives, plus sécurisantes dans la mort. De même que je crois que la promesse des 70 vierges et du vin qui n'enivre pas, ce qui, je le rappelle, est une faute de goût, aux djihadistes qui se font exploser avec une bombe, sont des attractivités, me semble-t-il, qu'il ne faut pas mépriser. Ce qu'offre l'État à leurs combattants n'est pas une éternité sans durée, mais un temps certes long, mais qui finira par l'oubli. Une prétention à l'éternité en dépit de la réalité qui est l'AEVUM, mais cet AEVUM, me semble-t-il, étant une construction humaine, prend fin. Le soldat mort est certes d'une certaine manière déifié lors de l'oraison funèbre dans la cour des Invalides, et celui qui prononce cette oraison funèbre peut promettre à ce soldat de rejoindre un panthéon avec les autres morts pour leur pays. Et dans l'oraison funèbre de Macron pour Beltrame, hein, il évoque des Pierre Brossolette, les compagnons de Jeanne et les compagnons de Kiefer, mais ces noms, ces évocations ne résonnent que de façon lointaine dans le souvenir des vivants d'aujourd'hui. On se recueille chaque 11 novembre devant les monuments aux morts érigés après la Première Guerre mondiale avec des listes de noms, mais ces cénotaphes n'attirent plus que les officiels, tout simplement parce que cette mémoire n'est plus vivante. Et rien n'est plus logique. Cependant, cette éternité accordée aux soldats n'est pas accordée par Dieu. Elle est accordée par les autres vivants, les autres mortels. Et par conséquent, la temporalité des vivants et de l'État qu'ils servent affecte la temporalité de ces morts. Des morts qui risquent de mourir une seconde fois, si l'on peut dire. Ils sont morts physiquement et leur mémoire est amenée à disparaître fatalement. Donc, puisque l'État est marqué par l'AEVUM, les morts le sont également. Ils ne peuvent prétendre à l'immuabilité, ils ne peuvent pas prétendre à échapper à la durée. Et donc, il me semble que la mort pour la patrie céleste et la mort pour la patrie terrestre restent marquées pas seulement par des différences de degré ou d'intensité, mais par des différences de nature. L'offre politique est et reste structurellement moins puissante, moins attractive, si l'on peut dire, avec évidemment des guillemets. Et en ce sens, donc, le travail de Cantor Rovitz vient nous rappeler la fragilité de la construction idéologique des XIIIe et XIVe siècles visant à décerner une durée infinie aux États. Qui s'efforce de leur donner ainsi une assise quasi divine. Cette construction reste et restera, me semble-t-il, incroyablement fragile. Et c'est pour cela que tant d'énergie a été placée dans cette construction. Je voudrais vous citer un petit mot de Richelieu, qui, au début du XVIIe siècle, on est vraiment dans le siècle de l'absolutisme triomphant, tout va bien pour l'État, si l'on peut dire. Et il dit ceci, grand partisan de la raison d'État, « Le salut des hommes s'opère définitivement en l'autre monde, alors que les États n'ont point de subsistance après ce monde, leur salut est présent ou nul. D'où il conclut, que les châtiments nécessaires à leur subsistance, à la subsistance des États, ne peuvent être remis, ils doivent être présents. » Et on ne saurait trouver de meilleure justification, en réalité, de la monarchie absolue, pour lui, ou même, dans une forme atténuée, de l'état d'exception. Mais on ne saurait aussi apporter meilleure preuve de la fragilité existentielle de l'État et ainsi suggérer que AEVUM, en réalité, à l'épreuve du réel, pas des idées, à l'épreuve du réel, AEVUM est beaucoup plus marqué par tempus, la mort, que par aeternitas, l'immobilité, l'immuabilité. Le second point que je voudrais traiter de manière rapide second sujet de l'illusoire concordance des temps porte sur la nécessité et la temporalité des libertés. Partons d'un texte qui n'est pas complètement inconnu, qui est la Déclaration de 89 dans son préambule, où on apprend que l'oubli, le mépris et l'ignorance des droits de l'homme et du citoyen sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On ne saurait mieux affecter un statut d'aeternitas, d'immuabilité, d'immobilité à ces droits. Mais on affirme une autre chose, c'est que si l'État espère une continuité, une stabilité, eh bien cette stabilité ne peut lui être apportée que dans le respect ou que par le respect scrupuleux de ses droits, non contre eux. Et d'une certaine manière, le principal motif de la puissance de l'État comme capacité à la continuité est sa relative impuissance à remettre en cause sa raison d'être. Donc pour le dire avec les catégories de Kantorowicz, la éternitas des limites du pouvoir est la condition même de sa prétention à l'aevum, au temps long. On pourrait développer une logique similaire pour l'avant-XIIIe siècle, à propos des droits divins et naturels qui sont par définition marqués par la même éternité que Dieu lui-même ou que Dieu en tant qu'auteur de la nature. Dans cette hypothèse également, le roi étant tenu dans une logique spéculaire, dans une logique d'imitation, de respecter les droits divins et naturels, la pérennité même de sa domination sur un territoire dépend de son aptitude à se conformer à cette ordo supérieure. C'est la logique des miroirs des princes de la tradition carolingienne et qui se manifeste jusqu'au travail de Jean de Salisbury. L'aevum se nourrit, s'alimente de la éternitas, mais il ne s'en détourne pas. Comment, dans ces conditions, être amené à penser que pour garantir la continuité de l'État, il faille au prince médiéval se détourner des préceptes chrétiens ou pour les gouvernements modernes se détourner du respect des droits et des libertés? La réponse doit se faire en deux étapes. La première étape, c'est que la plupart du temps, le respect de ce droit supérieur et la garantie de ce droit supérieur vont de concert. Il faut un État pour que les droits soient garantis. Pour le dire autrement, il est illusoire d'avoir une quelconque garantie des droits dans l'anarchie. Un point qui traverse les siècles. Mais il arrive que, face à une menace puissante, les conditions de possibilité de la sauvegarde du droit supérieur ne puissent être réalisées que contre ce droit supérieur. Telle est la logique de l'état d'exception. L'aevum vient au secours de l'aeternitas, lequel l'aeternitas reviendra vite, le plus vite possible, au secours de l'aevum. Et il me semble que cette logique a été renversée, justement, par la doctrine des deux corps du roi, en plaçant si haut l'impératif de préservation du corps politique que l'impératif de respect des règles limitatives du pouvoir a été progressivement éclipsé. En témoignent les progrès de la logique qui avait été travaillée aussi par Gainspost, de la logique de la ratio status republicae, c'est-à-dire de la raison, de la rationalité propre à l'état de santé du corps politique. Et c'est ce status-là, hein, comme état de santé, qui va devenir le mot état que nous connaissons. Ce qui va devenir une raison d'état venant plier la logique du respect des droits. Non, pas seulement de façon exceptionnelle, mais de façon ontologique, consubstantielle à la logique de l'État. Alors pardon pour le saut immense que je vais réaliser avec des concepts plus contemporains, mais je pense que Kant Horowitz me le pardonnera, lui qui n'hésitait pas à pratiquer comme étant une fécondité intellectuelle l'anachronisme, ce qui est une autre des formes de l'analogie, mais de l'analogie dans le temps. Lorsqu'il est question aujourd'hui des limites de l'exercice d'une liberté pour préserver un intérêt général, pour préserver l'ordre public, le juge administratif ou le juge constitutionnel pratique le test de proportionnalité, faisant au fond de la sauvegarde de l'État l'impératif invariable et du respect des libertés la variable d'ajustement. L'aeternitas des libertés est brisée au profit de l'aevum de l'État. Telle est la logique de la supériorité de l'impératif terrestre, de cette ratio status. Et on ne s'en est guère rendu compte, me semble-t-il, mais cette logique est exactement l'inverse de celle de 1789, qui faisait du respect des droits la meilleure garantie de la pérennité de l'État. Mais le plus surprenant, me semble-t-il, est que vient de ce que ce même test de proportionnalité est retenu pour faire plier des droits essentiels en état d'urgence. J'évoquais tout à l'heure l'inviolabilité du domicile ou la privation de la liberté individuelle pour seul motif d'une condamnation par le juge judiciaire, etc. L'urgence, ici, ne désigne plus le temps court du péril de l'État, mais vise l'intensité du sacrifice des libertés face à une menace durable. On est clairement passé de la nécessité exceptionnelle à la nécessité normale, et cette nécessité exceptionnelle devenue en réalité parfaitement normale, avec un mot d'exceptionnel qui désigne une intensité, une hauteur, une puissance, et non plus un temps de péril. Cette fois, il n'y a plus de rapport de proportion, il n'y a plus de rapport de plus ou moins, parce que cette urgence sans urgence permet de franchir une digue. Dit avec les termes de Kant Horowitz, les droits et libertés ne sont plus marqués ni par l'éternitas, l'immuabilité, ni par l'aevum, la continuité, mais par le tempus, ce temps bien terrestre de ce qui ne dure pas et ce qui, pour certains de ces droits, est arrangé dans l'armoire de nos souvenirs. Avec un tel raisonnement, et je rappelle quand même que l'urgence est un argument d'autorité, c'est-à-dire que l'urgence est un argument qui permet de faire cesser toute délibération, et donc tout rapport de proportion. Tout peut être emporté par l'intérêt général, par l'intérêt de notre nouveau corps mystique. Et le débat se déplace, forcément, donc sur le terrain du volontarisme, c'est-à-dire de cette séquence qui suit la séquence décrite par Kant Horowitz, un volontarisme de type bodinien qui, en fait, se posait la question, qui n'est pas de savoir si l'atteinte est proportionnée, mais qui dit qu'elle est proportionnée ou non. Voilà. J'ai terminé, je voudrais dire un dernier mot sur le mois que je viens de passer. Grâce à Olivier, dont je, sincèrement, très sincèrement, je te remercie, parce que c'est un voyage, en fait, Kant Horowitz. Comme je fais beaucoup, enfin, je fais peu de droit médiéval en ce moment, c'est aussi un peu exotique comme voyage. Je suis très admiratif quand j'entends Laurent ou M. Courtari ce matin. Voilà. Mais il me semble qu'il y a certainement des critiques à faire à ce livre de Kant Horowitz, et j'imagine que beaucoup de spécialistes ont de bonnes raisons de trouver que voilà, tel rapprochement est un peu hâtif, que les liens entre la théologie, le droit et la philosophie sont pas complètement démontrés et que ce qui les choses qui se ressemblent ne sont pas des choses qui doivent être superposées. Mais je trouve que quand même, Kant Horowitz n'a absolument rien perdu de sa puissance évocatrice. Donc c'est vraiment le signe, je pense, d'un très grand auteur et de très grands livres. Et ce qui est étonnant, et ce que disait M. Courtaris ce matin était, à mon avis, tout à fait étonnant, c'est qu'effectivement, c'est un historien qui ne plaît pas du tout aux historiens. En particulier parce qu'il se sent, je crois, enfin, c'est pas je crois, c'est une évidence, extrêmement libre par rapport à la chronologie. Et je pense que c'est en cela, et que ça donne toute l'épaisseur et toute la justification à l'intitulé de ce colloque, à mon avis, qui n'a pas besoin du point d'interrogation final, pour dire que oui, évidemment, Kant Horowitz est un historien pour les juristes.